Et tout de suite, vous retrouvez Marion Kazanov pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Anne Mignard, il est 9h10 à Washington. À la une, les suites des perquisitions du FBI à Mar-a-Lago, Donald Trump, furieux, fait infuser une théorie complotiste selon laquelle les agents fédéraux auraient déposé des preuves contre lui dans sa résidence de Floride. En Haïti, on reviendra avec Franz Duval sur cette livraison canadienne de véhicules blindés à la police haïtienne. Mexico, nouvel Eldorado des télétravailleurs américains, leur présence stimule le secteur du tourisme dans la capitale mexicaine, mais le revers de la médaille, c'est qu'ils font aussi grimper les prix au détriment du porte-monnaie des locaux, nous dira notre correspondante sur place. Et puis, on vous retrouve Benoît Ferrand en fin d'édition pour le journal de l'Outre-mer. On sera en Guyane où les coupures de courant se multiplient cette semaine.
Des coupures dites tournantes, des délestages autrement dit, suite à un problème sur le réseau entre la centrale hydroélectrique de Petit-Sault et le littoral guyanais.
A tout à l'heure Benoît. Donald Trump ne décolère pas trois jours après les perquisitions du FBI dans sa résidence de Floride. Des médias américains affirment que les agents pourraient chercher des dossiers classifiés que l'ancien président n'aurait pas remis aux archives nationales à la fin de son mandat. Le milliardaire désormais laisse entendre que le FBI pourrait avoir placé des preuves contre lui à Mar-a-Lago. Et aussitôt, cette nouvelle théorie du complot s'est mise à circuler jusque dans le camp républicain, Stéphanie Schuller.
La théorie selon laquelle le FBI pourrait avoir caché des preuves contre Donald Trump lors de la perquisition du domicile de l'ancien président est partie d'un compte anonyme de droite sur Twitter. Elle a été amplifiée par Alina Abba, l'avocate de Donald Trump sur Fox News.
Je suis inquiète qu'ils aient pu cacher quelque chose. Qui sait ? Je ne fais pas confiance au gouvernement. Et pour une Américaine, c'est effrayant. Ce sont des trucs du tiers-monde, de Cuba. Notre pays n'est pas comme ça.
Ce mercredi, Fox News, qui semblait à un temps avoir tourné le dos à Donald Trump, enchaîne les interviews sur le sujet avec des élus républicains, dont le sénateur Rand Paul.
Comment puis-je être sûr qu'ils n'ont rien placé dans les cartons qu'ils ont rapportés de Mar-a-Lago ? Ils ont perdu notre confiance.
L'élu républicain Greg Stoiber, membre de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dénonce même l'état policier de Joe Biden qui mène la guerre contre les conservateurs.
Welcome to Joe Biden's totalitarian police state where it's war on conservatives.
Un ancien procureur fédéral, Ron Filipkowski, réplique sur Twitter : rien ne pourrait mieux confirmer la culpabilité de Trump que sa suggestion que le FBI ait placé des fausses preuves. Il se fait prendre et il le sait.
Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pour la revue de presse, les journaux américains parlent toujours de cette perquisition de Mar-a-Lago et des déclarations du camp républicain.
Oui, c'est une rhétorique dérangeante, dangereuse et hypocrite, estime le Washington Post dans son éditorial. Le quotidien de la capitale dénonce un cirque politique et rappelle que quand le FBI avait enquêté sur la démocrate Hillary Clinton, soupçonnée d'imprudence dans l'usage de sa boîte mail, les partisans de Donald Trump assuraient au contraire qu'il fallait mettre en prison l'ancienne secrétaire d'État sans autre forme de procès.
Et les journaux s'interrogent malgré tout sur le silence du procureur fédéral des États-Unis.
C'est sous ses ordres que le FBI enquête. Aujourd'hui, ni la police fédérale, dont le directeur a été nommé par Donald Trump, ni le procureur Merrick Garland ne se sont exprimés sur cette perquisition. Ce silence total laisse la place à des informations inexactes et à la spéculation politicienne, estime dans le New York Times un ancien procureur. Or, les Américains méritent des réponses, écrit-il. L'ancien procureur balaye l'argument selon lequel les enquêteurs et les magistrats ne pourraient pas commenter des enquêtes en cours. Il y a des exceptions, dit-il, au nom de la sécurité publique, par exemple.
Et Donald Trump qui se garde bien, en revanche, de réagir sur des accusations de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. Il a refusé hier de répondre aux questions de la procureure générale de New York. Justine, au Pérou, après les perquisitions chez le président Castillo et au palais présidentiel, la belle-sœur du chef de l'État, Yennifer Paredes, s'est rendue hier.
Oui, elle a été placée en détention provisoire pour 10 jours, explique El Comercio. Les enquêteurs soupçonnent le président péruvien et sa famille de corruption et de blanchiment d'argent dans une affaire de marché public dans sa région natale. Hier, depuis le palais présidentiel, le président a assuré qu'il s'agissait d'une attaque contre sa famille, rapporte El Correo. Il y a tout un show médiatique. On dit que ma famille est embourbée dans la corruption. Mais depuis plus d'un an, cela n'a pas pu être démontré, a encore lancé le président de gauche visé par 50 enquêtes judiciaires.
À Cuba, le gigantesque incendie du dépôt pétrolier de Matanzas est désormais sous contrôle.
Oui, c'est ce que rapporte la presse officielle cubaine. Comme Granma, l'organe de presse du Parti communiste, l'incendie est maîtrisé et il reste quelques foyers de petite taille qui sont en train d'être éteints, se réjouit le journal, qui cite aussi le président cubain Miguel Díaz-Canel. En 5 jours, nous avons réussi à contrôler cet incendie de grande envergure. L'important est désormais de ne pas reculer, dit-il. Mais alors que la presse officielle salue une prouesse, les médias d'opposition comme 14 Imedio sont beaucoup plus critiques. Ce média en ligne publie les photos des 14 pompiers disparus dans l'incendie. Voici les Cubains que le régime a envoyés mourir au feu, titre le média, alors que le gouvernement n'a pas encore publié les noms des disparus. 14 Imedio souligne aussi que les réservoirs ont été construits il y a seulement 10 ans et se demande si les normes de sécurité ont bien été respectées lors de la construction. L'un de ces journalistes assure qu'aucune information publique n'est disponible pour savoir à quelle entreprise ont été confiés les travaux à l'époque. La page de l'encyclopédie cubaine en ligne concernant le dépôt pétrolier de Matanzas a été supprimée, écrit-il.
Et les chances de retrouver les mineurs vivants au Mexique sont très très minces. 10 mineurs se sont retrouvés coincés la semaine dernière dans une mine de charbon qui a été inondée. L'opération de secours est rendue difficile à cause d'une eau boueuse peu praticable pour les plongeurs. C'est ce qu'explique l'ingénieur minier Raoul Garcia.
Il est possible que les nouvelles qui nous parviendront soient malheureusement mauvaises. Beaucoup comparent cette situation à celle du Chili, quand des mineurs ont été bloqués. Mais ces mines étaient très grandes. Ici, elles sont toutes petites. Donc la quantité d'oxygène qui pourrait se trouver dans une quelconque cave est minime. Et pour ce qui est de la nourriture, elle est inexistante. Ils sont coincés dans un espace où ils peuvent à peine bouger, ou même avancer, c'est ce que nous pensons, à cause de la quantité d'eau. Maintenant, c'est toujours possible. Et nous gardons ce minuscule espoir qu'il y a encore de la vie.
Guardemos ese pequeño sentimiento de que puede haber algo por vivir.
On termine ce tour de la presse en Argentine. Vous l'entendez, où des manifestants ont passé la nuit sur la place de Mai, Justine.
Des dizaines de tentes devant la Casa Rosada, le palais présidentiel, et devant le ministère de l'économie. Les manifestants se protègent du froid avec des braseros, le froid de l'hiver austral, rapporte l'agence de presse argentine Telam. Ils demandent de l'aide pour les retraités et les plus modestes, une aide financière. On annonce une inflation à 2 chiffres concernant les aliments cette semaine et il n'y a pas une seule mesure pour les plus précaires, ont dénoncé les organisations sociales, rapporte le journal Página 12. Entré au gouvernement il y a tout juste une semaine, le ministre de l'économie, Sergio Massa, a été qualifié de super ministre car il assume plusieurs portefeuilles. Mais il n'a de super pouvoir que pour appliquer les mesures du Fonds monétaire international et des entreprises, dénoncent les syndicats qui manifestaient hier.
Et c'était la revue de presse des Amériques de Justine Fontaine.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne à présent avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Marion.
Et aujourd'hui, vous consacrez votre éditorial à la livraison prochaine par le Canada de véhicules blindés à la police haïtienne. Vous accueillez cette nouvelle avec un optimisme prudent.
Tout à fait. Haïti connaît une situation d'insécurité. Il y a une guerre des gangs. Il y a des affrontements entre la police et les gangs. Ces véhicules de transport de troupes blindées étaient très attendus par la police haïtienne car c'est le principal élément qui donne un avantage à la police haïtienne pour pénétrer dans certains quartiers et dans certaines zones de la capitale. Mais le Nouvelliste souligne dans l'éditorial que les véhicules blindés, c'est le commencement. C'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution, car il faut beaucoup plus que ça. Il faut des armes et des munitions, parce que les véhicules qui arrivent du Canada ne sont pas armés. Il faut aussi des hommes, il faut de l'entraînement, il faut de l'intelligence, il faut de l'information, il faut de la volonté politique pour pouvoir mener une bataille concrète contre l'insécurité. Et il y a tous les autres problèmes qu'il y a ça à Haïti. Le gouvernement de M. Ariel Henry est de plus en plus confronté à une chaîne de problèmes. Et les blindés qui arrivent sont une partie de la solution, mais ce n'est pas toute la solution. D'autant que Haïti est mûr pour toutes les crises. On peut tomber dans l'enlisement, on peut même entrer aussi dans l'engrenage pour passer à autre chose.
Ce jeudi, Franz, vous donnez aussi la parole à des habitants de la région de Port-au-Prince contraints d'abandonner leur maison à cause de la violence des gangs.
C'est de plus en plus fréquent, c'est arrivé en pleine du cul-de-sac, c'est arrivé à Tabar, c'est arrivé à la Croix des Bouquets, c'est arrivé à Torcel, qui est dans la commune de Pétionville. de plus en plus de quartiers, les gens sont obligés d'abandonner leur maison. C'était déjà le cas à Martissant, c'était le cas au Bel Air, c'était récemment le cas à Cité Soleil. À chaque fois qu'il y a la guerre des gangs, à chaque fois qu'il y a des affrontements, à chaque fois aussi que les gangs décident d'élargir leur territoire, le contrôle sur certains territoires, mais la première chose qu'ils font, les résidents sont chassés de leur domicile. Des fois, le domicile sert tout simplement de point de guerre pour les gangs. Des fois, c'est un nouveau quartier général pour les gangs. Et des fois même, ils installent femmes et enfants dans ces maisons et prennent possession. Et les gens sont obligés de partir, des fois seulement avec l'habit qu'ils avaient sur eux, sans rien prendre, sans même regarder cette ancienne maison qu'ils avaient payée, des fois, qu'ils avaient achetée, qu'ils avaient eu à construire ou qu'ils louaient tout simplement. Et bien, à chaque fois, les gens doivent partir. C'est une situation qui se répand dans toute la région métropolitaine de Port-au-Prince et le Nouvelliste en parle en une ce matin.
Et enfin, le Nouvelliste publie aussi plusieurs réactions au communiqué de l'OEA publié cette semaine. L'Organisation des États américains soulignait la responsabilité de la communauté internationale dans la crise haïtienne. Comment cela a-t-il été reçu en Haïti?
Alors, pour le moment, c'est surtout la société civile qui réagit tranquillement. Le gouvernement se tait totalement. Le gouvernement haïtien n'a rien dit. L'opposition aussi ne s'est pas prononcée. Les alliés d'Ariel Henry n'ont rien dit. Mais d'autres personnes sont en train de lire ce communiqué du secrétaire général de l'Organisation des États américains qui fait à la fois un diagnostic. La communauté internationale a échoué en Haïti ces 20 dernières années. Mais qui fait aussi l'autre diagnostic, c'est qu'Haïti n'a pas les ressources humaines, matérielles, d'intelligence pour résoudre tous les problèmes auxquels le pays est confronté pour le moment. En gros, M. Almagro demande que la communauté internationale s'investisse encore plus dans la résolution des problèmes haïtiens. Ce n'est pas une intervention qu'il demande, mais c'est quasiment une mise sous tutelle. Il le dit à travers ce communiqué de 4 pages. La communauté internationale, l'agissement de la communauté internationale en Haïti, pour le moment, il réagit, c'est le Nouvelliste leur donne la parole.
Voilà, on peut lire donc cela dans le Nouvelliste du jour. Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Merci comme tous les jeudis avec nous sur RFI. Pour boucler ce tour des Amériques, je vous emmène dans la capitale mexicaine. Son climat, sa culture, ses couleurs, Mexico attire chaque année des milliers de touristes et certains tombent sous son charme au point de s'y installer. Il n'est plus rare de voir débarquer des télétravailleurs américains en quête de dépaysement. Leur venue représente une manne financière importante pour le pays, mais les salaires confortables avec lesquels ils débarquent font aussi grimper les prix. Et cela commence à se répercuter sur le quotidien des Mexicains. Reportage de Gwendolina Duval.
À Mexico, dans le quartier chic de Polanco, Alexandra Demou dirige une agence immobilière. Elle propose un service d'expatriation au Mexique clé en main.
Chaque semaine, nous répondons à environ 55 appels de nouveaux clients américains, juste des Américains qui cherchent des renseignements pour s'installer à Mexico. Donc il y a eu une énorme augmentation.
La plupart sont des jeunes télétravailleurs ou freelance. Pour quelques mois, un an ou plus, ils sont à la recherche d'un cadre de vie agréable ici.
Le principal attrait du Mexique est que ce n'est pas cher. Donc vous pouvez avoir une bien meilleure qualité de vie à moindre coût. Je pense que c'est la raison numéro un qui attire les gens ici. Et là, on assiste à un gros boom des quartiers de la Roma et de la Condesa.
La Roma, aujourd'hui, est l'un des quartiers les plus animés de la capitale. Janice Dominguez y vit depuis des années. Elle est mexicaine et travaille comme maquilleuse dans les théâtres aux alentours.
Pour ceux d'entre nous qui vivent dans la ville, les prix ont augmenté, tant au supermarché que dans les commerces et même dans les restaurants. Dans ceux où tu allais avant pour manger, tu n'y vas plus car les prix sont plus élevés.
Comme un phénomène en cascade, la gentrification à l'œuvre à Mexico repousse toujours un peu plus les locaux comme Janice des centres d'activité.
Un Mexicain ne peut pas acheter une propriété à 100 000 ou 150 000 dollars. Aujourd'hui, ces opportunités sont présentées aux touristes plus qu'aux Mexicains eux-mêmes. Je suis en train de déménager. Je vais dans un endroit plus au sud de la Roma, où les prix sont moins élevés.
Lors de la crise sanitaire, le Mexique est resté l'un des seuls pays ouverts aux touristes. Nombre d'entre eux y sont venus pour fuir l'enfermement. Dès lors, dans ces zones touristiques, la fréquentation des étrangers n'a cessé d'augmenter. C'est dans ce contexte que Carlos et Ricardo se sont reconvertis professionnellement pour donner des cours d'espagnol.
Il y avait une demande qui nécessitait qu'on offre ce type de service. C'est pour ça qu'on a commencé, tout simplement.
La majorité des élèves viennent des États-Unis.
Désormais installés dans l'immeuble d'une chaîne de bureaux partagés, leur école compte 6 professeurs et enseigne la langue à une trentaine d'étudiants chaque semaine.
C'est le cas de Jesse et Eric qui viennent régulièrement travailler et passer du bon temps à Mexico.
Nous sommes avocats et nous possédons notre propre cabinet, donc nous pouvons travailler à distance et nous pouvons nous présenter aux audiences et aux médiations à distance, heureusement pour nous.
Nous adorons tout à Mexico. Vous pouvez rester ici des mois et des mois sans avoir tout vu, tous ces beaux musées, tous les restaurants, les bars.
Chaque année, les dépenses des touristes étrangers au Mexique s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Pour Carlos y Ricardo, qui dirige l'école d'espagnol, c'est évident que l'arrivée massive d'Américains est profitable, et pas seulement pour leurs affaires, mais aussi pour toute l'économie locale.
Beaucoup de restaurants et de commerces en bénéficient. Les étrangers aussi ont un pouvoir d'achat élevé, donc il y a plus de consommation.
Ils vivent dans le quartier depuis plusieurs années, et même si tous les deux ils constatent une augmentation du niveau de la vie, ils assurent que le tourisme américain le transforme positivement.
En réalité, il est en train de récupérer une partie de la vie qu'il a perdue, par exemple à cause du séisme de 2017. Beaucoup de personnes sont parties, les touristes aussi, donc je sens que le quartier récupère la dynamique.
Même si le tourisme accentue la fracture sociale dans une ville déjà très contrastée, l'économie mexicaine en dépend plus que jamais. Cette année, il représente environ 15% de son PIB. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Un journal avec à la une la Guyane, frappée depuis le début de la semaine par des coupures de courant à répétition. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marion. Des coupures dites tournantes, des délestages autrement dit, suite à un problème sur le réseau qui relie la centrale hydroélectrique de Petit-Saut et le littoral guyanais. Des groupes électrogènes vont être acheminés depuis la Guadeloupe pour parer à toute éventualité, comme on dit. Je vous propose d'écouter Sylvain Martineau, directeur adjoint d'EDF Guyane, et Serge Romney du syndicat UTG.
On est en train de réparer une des lignes d'évacuation de Petit-Saut, ce qui devrait nous permettre de récupérer Petit-Saut, je l'espère, très rapidement. À date, donc, on est sur les moyens thermiques. Nos projections nous disent qu'on ne devrait pas avoir de délestage. Cependant, effectivement, c'est un risque. Si les consommations sont trop importantes, on pourrait éventuellement être amené à délester quelques clients ou à travailler sur l'effacement de nos clients.
Il faut bien que les gens comprennent que la centrale de Petit-Saut n'a pas de problème. C'est simplement qu'on n'arrive pas à faire transiter sa production vers le réseau principal. C'est la faute d'un sous-investissement et surtout c'est la faute d'une mauvaise politique de maintenance. Si ces groupes-là arrivent assez rapidement, parce qu'en fait, quand ils font arriver des groupes, c'est pour justement pallier à ce problème-là.
Direction la Martinique maintenant, avec ce coup de gueule des professionnels de la mer, des professionnels pas franchement amusés par ces plaisanciers qui, disent-ils, leur piquent en douce une partie de leur clientèle. Reportage Bianca Caretto.
Le tout public n'est pas informé des risques effectivement qu'il encourt à embarquer sur des navires non professionnels. Parce que la mer est belle, hein, mais comme on dit chez nous, on ne met pas ni broche. En cas d'accident, nous sommes formés à prendre les mesures adaptées pour leur sécurité. Sur le plan économique, alors ça nous porte préjudice, bien évidemment, puisque nos charges en tant que professionnels entrepreneurs sont très lourdes.
Ce genre de prestations illégales de croisière préoccupe également la police de la mer, même s'il est compliqué de prouver ces activités commerciales déguisées. Mathieu Crépin, chef du service de la sécurité et de la police maritime.
Donc, on va peut-être tomber nez à nez avec des plaisanciers qui font cette activité. Ce sera difficile de caractériser l'infraction parce qu'il faudra démontrer que les passagers à bord sont des clients. Il faut démontrer qu'il y a une prestation commerciale. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est pour leur sécurité qu'on fait ça. C'est effectivement, on se dit, c'est plus simple. Bah voilà, il y a le bateau du coin du port, il peut m'embarquer. Non, non, non. Il faut justement penser qu'il y a des professionnels qui sont agréés, qui sont formés pour ça, et que s'ils embarquent avec le premier plaisancier venu, ils ne sont pas à l'abri d'un accident.
Bon après-midi, Marion. À demain.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve donc demain pour un nouveau journal des Outre-mer. Et nous aussi, on se retrouve demain pour une nouvelle édition d'Haïti et des Amériques à la même heure, vous le savez, 13h10, temps universel. Il me reste à remercier Hélène Avril qui était à la réalisation aujourd'hui. Il est bientôt 15h30 à Paris. Bonne journée sur RFI.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte.